affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie d'un grand mathématicien qui aime transmettre son savoir aux enfants, peut-être parce qu'il partage avec eux le sens de l'émerveillement. Étienne Gisse est directeur de recherche au CNRS et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Il vient de publier une petite histoire des flocons de neige aux éditions Odile Jacob, un sujet tout à fait de saison en cette période hivernale. Dans ce livre délicieux, l'homme de science devient conteur. Il explique avec enthousiasme comment les savants ont cherché à comprendre ces minuscules merveilles tombées du ciel. Bonjour Étienne Gisse.
Bonjour, bonjour.
Nous allons donc parler ensemble des flocons de neige et vous dites que vous êtes de plus en plus émerveillé, c'est le mot, par cette réalité naturelle. Qu'est-ce qui vous fascine ?
Ce qui fascine, c'est le mélange de beaucoup de choses. D'abord, c'est indiscutablement magnifique. Quand on voit ces images et quand on voit les flocons, leur diversité, c'est absolument époustouflant. Deuxièmement, cette magnificence, elle est camouflée dans un truc absolument microscopique, de 1 mm, 2 mm. Donc c'est extraordinaire de voir toute cette beauté cachée dans un tout petit objet. Et puis moi, en tant que mathématicien, quand je vois ces formes, spécialement en tant que géomètre, je ne peux que me régaler face à toutes ces figures géométriques, tous ces hexagones qui s'emboîtent, etc. Donc il y a un mélange de beauté, d'esthétique et de mathématiques et de physique.
Et dans ce livre, vous parlez de science, mais pas seulement. Il y a aussi, on le sent bien, un rapport de civilisation parfois. On le voit bien avec le premier personnage que vous nous présentez. C'est un homme venu du Nord, l'un des premiers à dessiner des flocons de neige. Dans quel but se lance-t-il dans cette entreprise ?
Donc, il s'agit d'un archevêque qui s'appelait Olaf Manson. Alors, il a beaucoup de noms, ça dépend. Quelquefois, il signe Olaus et Manson, quelquefois, il signe Magnus. Enfin, donc, ça a beaucoup de noms variés, suivant qu'il écrit dans sa langue le suédois ou en latin. Ça dépend un peu des situations. Ce monsieur était un archevêque catholique. Nous sommes à l'époque des guerres de religion. Il est expulsé de son pays. Il se retrouve à Rome. Et à Rome, il se trouve face à des gens qui croient que le Grand Nord, c'est réservé à des barbares, qu'il n'y a aucune culture. Dans mon petit bouquin, j'ai fait une allusion au mur de la Game of Thrones, au-delà duquel il y a les méchants barbares. Et donc, il se donne comme but de restaurer un peu l'image culturelle du Nord. Et il écrit un livre qui s'appelle « Histoire des gens du Nord », qui contient une quantité incroyable, je ne sais pas, 500 ou 600 gravures sur bois, qui sont vraiment superbes, absolument superbes. Chaque page est illustrée par une gravure, et il discute de chaque aspect de la culture du Nord. Il y a comment on fait du feu, comment on fait de la luge, etc. Et puis il y a un chapitre qui s'appelle « La neige », qui est importante, bien sûr, dans le Nord. Et il y a une reproduction, des dessins de flocons de neige. Je crois bien que c'est les premiers flocons de neige qu'on ait jamais dessinés. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tous faux. C'est-à-dire que ce sont des dessins d'imagination. Il fonctionne un peu comme un poète. Il essaye de dessiner ce que, selon lui, devraient être les flocons de neige, mais visiblement, il ne les a pas regardés, parce qu'il dessine des choses un peu bêtes, un peu pas bêtes, mais il dessine des trucs en forme d'une lune ou d'une main avec 5 doigts. Enfin, c'est complètement fou. En tout cas, j'aime bien ce personnage parce que ce Olaf, il a fait en sorte que, dans la culture occidentale en tout cas, il n'y a pas que Rome. Il y a aussi des choses du Nord. Voilà.
Alors les scientifiques, dans ce grand mouvement d'avènement de la science moderne, vont s'intéresser à la neige. Et on peut parler de l'un d'eux, qui est Kepler, qui lui observe la neige et se pose des questions. Quelles sont ces questions ?
Kepler est un très, très grand mathématicien, astronome, philosophe, C'est mon préféré dans cette histoire.
Hein. C'est vrai.
C'est sans aucun doute un homme qui souffrait beaucoup, qui écrivait des livres très poignants dans lesquels il n'hésitait pas à expliquer ses erreurs. Par exemple, il commence son livre majeur sur le système solaire. Il commence en disant il y a beaucoup de façons d'écrire des mathématiques. L'une d'entre elles consiste à expliquer toutes ses erreurs. Et l'autre, ça consiste à expliquer directement le résultat sans expliquer par où on est passé. J'ai décidé de vous expliquer toutes mes erreurs. Mais maintenant que je relis mon livre, je n'y comprends plus rien. Et chaque chapitre commence par « Je me cognais la tête sur les murs comme des chauves-souris ». Enfin, c'est un homme qui souffrait. C'est contraire, c'est un peu le concurrent, on peut dire, de Galilée. Et Galilée, c'était le contraire. C'était le gentilhomme qui se montrait auprès des riches, etc. Toujours est-il que Kepler a écrit un petit livre sur la neige qu'il a écrit pour l'offrir à un de ses mécènes, à un de ses amis. Et il part précisément du principe que la neige est formée de flocons tout petits et il se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'elles ont une symétrie avec 6 branches? Pourquoi pas 5 et pourquoi pas 8? Pourquoi est-ce que les flocons sont plats et non pas poussent pas dans toutes les directions? Donc il se pose énormément de questions. Et puis ce livre est absolument magnifique parce que c'est vraiment un regard du scientifique face à un phénomène. Le phénomène, c'est la neige. Il regarde, il se pose des questions. Et comme vous le savez probablement, dans l'activité du chercheur, poser la question, c'est souvent le principal. Quelquefois, le fait de poser la question donne immédiatement la réponse et on est très satisfait, mais parfois, c'est long. Et Kepler pose des questions, il envisage quelques solutions possibles. Il ne les trouve pas toutes. Et il faudra attendre 4 siècles pour qu'on comprenne que ses intuitions étaient correctes. Puis à la fin, si je me souviens bien, la dernière phrase de son bouquin, c'est je n'ai pas les réponses aux questions que je pose. Il faudra au moins 100 ans pour qu'on connaisse les réponses. En fait, il va falloir 400 ans. Voilà.
Dans votre livre, il y a beaucoup d'images. Vous avez parlé des dessins d'Olaf Mundson. Il y a aussi des photos. On comprend qu'en fait, cette image du flocon est importante. Qu'est-ce qu'ont apporté les techniques contemporaines? Le flocon, la photo et le rayon X?
Oui, alors voilà. D'abord, la première étape, ça consiste à les dessiner. Hein, alors, je vous ai parlé des dessins un peu fous de Olaf Mundson, mais il y a aussi des dessins encore plus fous, on peut dire, de Descartes. Hein. Descartes écrit un livre fameux qui s'appelle « Les météores », dans lequel il y a un chapitre sur la neige. Et il fait des dessins de flocons. Et quand on regarde parmi ces flocons qu'il dessine, on en voit un certain nombre qui n'ont pas 6 branches, mais 8. Encore une fois, ce sont des flocons qui ne peuvent pas exister dans la nature. Alors on peut se demander comment est-il possible qu'un grand esprit comme Descartes puisse faire des bourdes aussi grosses. Eh bien, c'est clair, c'est parce que Descartes n'est pas un observateur. Hein. Descartes est quelqu'un qui est convaincu que c'est la pensée humaine qui crée la connaissance et non pas l'observation du monde extérieur. Donc, il a regardé, mais rapidement, il est absolument persuadé que son intellect, « je pense, donc je suis », il était persuadé qu'il suffisait de réfléchir pour savoir comment sont faits les flocons, il se trompe. Donc il y a la période de dessin, après peut-être qu'on parlera, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dessiné des flocons, en particulier pour des raisons artistiques, parce que c'est beau, donc il y a des gens qui ont dessiné. Et puis la période entre guillemets scientifique commence avec un Américain qui s'appelait Wilson Bentley. Alors on est à la fin du 19e siècle, il habite dans le Vermont aux États-Unis, un endroit très très neigeux. Et il aime la neige. Voilà. Et il arrive à convaincre sa maman, quand il est encore tout petit, enfin adolescent, de lui acheter un appareil photo, mais l'appareil photo de l'époque, hein, donc avec des soufflets, etc. Et il essaye de brancher, ou je ne sais pas comment dire, de connecter à une espèce de microscope, et il essaye de photographier les flocons. Ce n'est pas facile.
C'est compliqué.
Ça fond. Hein. Donc c'est très compliqué. Finalement, il y arrive. Et il passe toute sa vie entière à photographier des flocons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces photographies sont très, très, très belles. Beaucoup de personnes considèrent que ce sont ces photographies qui ont inculqué dans notre culture commune le symbole du flocon. Pour nous tous aujourd'hui, le flocon, c'est le symbole de Noël, de l'arbre de Noël, de la neige, de cette époque de festive. Le flocon, c'est le logo des surgelés picards. Hein, donc, ça fait partie de notre culture. Mais c'est nouveau. Enfin, nouveau, entendons-nous. C'est en particulier grâce à des gens comme Bentley, qui a pris ses photographies. Mais lui n'était pas un scientifique. Il faisait ça parce que c'est beau. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris en lisant sa biographie, sa motivation principale, c'était de faire dans sa ferme des projections de ses photos pour les enfants. Donc il montrait aux enfants les merveilles de la nature. Et d'ailleurs, quand on regarde les photos, j'ai lu aussi qu'il les bidouillait un peu. Il les photoshopait, entre guillemets. Il n'y avait pas de Photoshop à l'époque, bien sûr, mais il faisait des retouches parce qu'il voulait qu'elles soient en quelque sorte plus belles qu'en vrai. Donc il y a cette période où la photographie intervient, mais n'a pas un rôle véritablement scientifique. Et ensuite, la photographie est venue beaucoup plus tardivement dans un rôle scientifique. Et en particulier, je cite dans mon bouquin ce physicien contemporain, Liebrecht, qui a un site internet que je recommande à tout le monde, où là, il prend des photos de savants. C'est-à-dire qu'il prend des photos qui ont une valeur proprement scientifique, qui ne se permettrait pas d'utiliser Photoshop. Tout au plus, il utilise un peu parfois pour tricher. C'est pas pour tricher, c'est un peu comme les astronomes. Vous savez, les astronomes montrent de très belles photos. Et des fois, on se dit, bon, ils exagèrent un peu parce qu'ils mettent des couleurs, un peu, des couleurs qui les rendent un peu plus sympas. Et bien, de la même manière, Liebrecht, il prend des photos de flocons, mais il peut mettre derrière, il peut mettre des petites lumières pour que ça soit, qu'on voit un peu des couleurs sympas, quoi. Voilà.
Peut-être que pour mieux comprendre ce sujet, vous pourriez nous rappeler, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un flocon? Quelle est sa nature? De quoi se compose-t-il?
Alors, un flocon... Alors, je vais commencer par dire que je ne devrais pas dire un flocon.
Ah.
Dans la langue commune, on dit un flocon de neige.
Que faut-il dire?
Il faudrait dire un cristal de neige. Hein, c'est-à-dire que si un jour où il neige, vous mettez votre main et vous recevez dans votre paume de la main ce que nous appelons un flocon, et si vous regardez de près, vous verrez que ce flocon est constitué d'un certain nombre de cristaux de neige qui s'enchevêtrent, peut-être une dizaine en général. Donc, ce qu'on appelle un cristal de neige, c'est l'une de ces petites unités. Mais voilà, ce qu'on appelle une petite confusion entre cristal de neige et flocon de neige. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Tout ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Alors, ça marche comme ça. Dans un petit nuage, en altitude, il y a de l'eau. Et cette eau se trouve sous les trois formes possibles. Elle peut être sous forme de vapeur d'eau, donc des petites molécules de H2O qui se promènent un peu dans toutes les directions, qui dansent dans l'air. Il y a des petites gouttelettes d'eau, toutes petites, mais d'eau liquide. Et puis il y a des tout petits cristaux de glace microscopiques, de l'ordre du micron, donc un millième de millimètre. Et qui se sont formés à partir d'une petite poussière. Il y avait une petite poussière dans le nuage, et autour de la poussière, un petit cristal de glace s'est formé. Et la vapeur d'eau qui circule autour de ce petit noyau de cristal de glace, la vapeur d'eau vient se coller sur ce petit bout initial et commence une croissance, la croissance du flocon. Et comme le flocon se promène dans le nuage, il est ballotté par le vent. Et ce phénomène de croissance va dépendre de la quantité de vapeur d'eau qu'il y a, ça va, donc de l'hygrométrie, va dépendre de la température, va dépendre de la pression, puis va dépendre du vent. Et notre petit flocon, il va être ballotté dans toutes les directions. Et donc, il va grandir progressivement, il va grossir peu à peu. Et à un moment, il sera tellement gros que le vent ne pourra plus le supporter, il va tomber. Il tombe, il neige. Donc voilà là. La vie d'un flocon.
Il neige ou pas forcément, d'ailleurs.
Il neige au niveau du nuage, donc ça tombe. Et s'il fait 35 degrés au niveau du sol, le magnifique flocon qui vient d'être fabriqué, eh bien, en arrivant au sol, est devenu une goutte d'eau.
Et alors, selon quelles règles cette croissance du flocon se déploie-t-elle?
Alors, c'est là toute la question. C'est une question initialement de physique. de savoir comment cette vapeur d'eau vient s'agréger à ce cristal en formation. Et ça, ce sont des questions extrêmement compliquées qui mêlent de la thermodynamique classique, hein, donc la science des échanges de chaleur. Mais la difficulté principale est que la thermodynamique qu'on comprend bien, elle est en général, ne s'applique pas dans cette situation puisque notre cristal est en construction. C'est ce qu'on appelle de la thermodynamique hors de l'équilibre, puisque par définition, le cristal est en train de se fabriquer. Donc c'est une partie compliquée de la thermodynamique, on ne comprend pas tout. Puis d'autre part, il y a ces phénomènes qui sont liés à la structure atomique du cristal de glace qui fait que l'interaction est extrêmement compliquée. Du coup, la façon dont le cristal grandit, on comprend comment ça marche, mais on ne comprend pas tout. Et c'est à ce niveau que les mathématiciens peuvent intervenir pour proposer ce qu'on peut appeler des modèles, des petits modèles, éventuellement des modèles très simples, des modèles joués un peu, qui permettent de tester pour voir si ça correspond à peu près à ce qu'on voit. Et dans mon bouquin, là, vers les derniers chapitres, j'explique quelques-uns de ces modèles les plus simples qui permettent, sur un écran d'ordinateur, de fabriquer des flocons. Et alors on fait un modèle et on regarde si ce qui se crée sur l'ordinateur, si oui ou non, ça ressemble à ce qu'on voit dans la nature.
Justement, est-ce que les mathématiques nous aident à comprendre pourquoi il y a 6 branches sur un flocon et pourquoi ce chiffre 6 est si important ?
Alors, le chiffre 6 est important. Alors, d'abord, Johannes Kepler avait eu une idée assez géniale immédiatement. Quand il a vu que les flocons avaient 6 branches, il a immédiatement pensé aux alvéoles d'abeilles. Quand on regarde les alvéoles d'abeilles, elles sont formées d'hexagones. Et chaque hexagone est entouré par 6 autres hexagones. Et au bout du compte, cette propriété du nombre 6, on la connaît tous plus ou moins si on a un jour essayé de dessiner un cercle sur un papier et puis qu'on essaye de mettre autour de ce cercle d'autres cercles. Moi, je pense, par exemple, dans mon bouquin, je prends des pièces de monnaie. On prend une pièce de monnaie de 1 euro, on la met sur la table et on essaye de mettre d'autres pièces de monnaie de 1 euro tout autour. Et si vous avez fait un peu de géométrie, ou en tout cas si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez voir que 6 pièces de monnaie exactement conviennent pour faire le tour d'une pièce de monnaie initiale. Et Kepler a l'intuition que c'est ce 6-là, c'est-à-dire que le 6 provient du fait qu'un disque peut être entouré par 6 autres disques. Et ça le mène à d'autres questions. Il dit, mais pourquoi dans ce cas-là, pourquoi des disques et pas des boules ? Parce qu'après tout, on pourrait penser que ce sont des petites boules. Alors, il pose des questions. Et l'une des questions qu'il pose est tout à fait intéressante. Au lieu de prendre une pièce de 1 euro, prenez une balle de ping-pong. Et puis, vous vous posez la question, j'ai une balle de ping-pong, combien d'autres balles de ping-pong je peux placer autour de la première pour que toutes touchent celle qui est placée au centre ? Combien je peux en mettre au maximum ? Eh bien, c'est intéressant parce que c'est assez facile de voir qu'on peut en mettre 12. Mais est-ce qu'on peut en mettre 13 ? Parce que dans le cas du disque et des pièces de monnaie, quand on a mis les 6 autour de la première pièce, il n'y a plus d'espace, tout est rempli. Par contre, si on prend une balle de ping-pong, qu'on en met 12 autour, c'est assez facile de voir qu'il reste un peu de jeu. Il y a encore de la place. Mais est-ce qu'il y a assez de place pour en mettre une 13e ? Alors là, ça a été un grand débat tout au long des siècles, pour savoir si c'est 12 ou 13. Et puis, il a fallu attendre, si je ne me trompe pas, 2005, il a fallu attendre très, 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 très longtemps pour qu'on puisse régler la question. Et on sait aujourd'hui que c'est 12 et pas 13. Voilà. C'est ce qu'on appelle le kissing number, le nombre, parce que ces balles de ping-pong embrassent la première. Voilà. Donc, c'est une question strictement géométrique, strictement mathématique, qui a été inaugurée par Kepler.
Dans ce phénomène de croissance du flocon autour de 6 branches, il y a le phénomène du facettage. Oui. Pouvez-vous l'expliquer ?
Alors, c'est intéressant parce que lorsque le flocon grandit, il y a deux phénomènes qui sont contradictoires. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que de temps à autre, c'est l'un qui l'emporte, de temps à autre, c'est l'autre qui l'emporte. Et c'est cette compétition entre ces deux phénomènes qui fait que la figure qui en résulte est si belle et si complexe. Donc, la première, c'est que si vous avez, disons, un flocon, un cristal, disons, assez informe, avec, par exemple, un trou dedans, enfin, une espèce de fente, alors, comme il y a de la vapeur d'eau tout autour, on peut penser que la vapeur d'eau va avoir tendance à rentrer dans le trou et elle va, en quelque sorte, gommer les irrégularités. C'est ce qu'on appelle le facettage, c'est-à-dire que l'objet qui, initialement, était plein d'irrégularités, va avoir tendance à devenir de plus en plus lisse. Ça, c'est le premier phénomène qui... Mais s'il n'y avait que ce phénomène, les flocons seraient complètement lisses et n'auraient Et j'aurais pas écrit ce livre, voilà. Et le deuxième phénomène,
il n'y aurait pas cet aspect de dentelle.
Il n'y aurait pas cette dendrite, comme on dit. Et le deuxième phénomène, c'est exactement ça. Imaginons que à un moment le cristal a développé une espèce de doigt qui sort vers l'extérieur, une pointe qui sort vers l'extérieur. Eh bien, on peut dire que la pointe, la partie de la glace qui est dans la pointe, elle est entourée par énormément de vapeur d'eau, et on peut penser que la vapeur d'eau est tellement abondante autour de la pointe qu'elle va se solidifier, se congeler là aussi, ce qui fait que le doigt qui sortait du cristal en croissance va avoir tendance à se consolider et à augmenter encore. Donc on a ces deux phénomènes, l'un qui va avoir tendance à créer de l'irrégularité et l'autre qui va avoir tendance à lisser les bords, et puis bon, ils font un peu la guéguerre tous les deux. Et c'est cette lutte qui produit ces formes vraiment magnifiques.
Cela nous amène aux conditions atmosphériques qui peuvent exister. Quel est le rôle de la température, de l'humidité dans tout ce processus ?
Alors, on a un certain nombre de paramètres dans cette croissance. Par exemple, vous parlez de l'humidité. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, l'humidité ? Ça veut dire la quantité de vapeur d'eau qui est présente. Donc, on comprend bien que si notre petit cristal de glace est entouré par beaucoup de vapeur d'eau, eh bien, la vapeur va se coller au cristal de manière différente que s'il n'y en a pas beaucoup. Donc l'hygrométrie, l'humidité, joue un rôle important. La température aussi, puisque vous savez que, en gros, qu'est-ce que la température, si ce n'est la vitesse d'agitation des molécules, hein. Donc s'il fait très chaud, s'il fait modérément froid, on peut dire, eh bien, la vapeur d'eau qui est dans le nuage gigote, danse relativement lentement. Si c'est relativement chaud, ça veut dire que ça va assez vite. Si c'est très froid, ça veut dire que les molécules de vapeur d'eau sont très lentes. Donc la manière dont elles vont se coller sera aussi différente. Donc il y a plein de critères qui interviennent. Il y a aussi la pression, c'est-à-dire la quantité d'eau. Enfin, tout ça, ça fait que c'est un problème physique extrêmement compliqué. Et la bonne nouvelle, c'est souvent ça en maths, c'est qu'on peut faire des modèles tellement simplifiés, tellement presque simplistes, qu'après on peut les tester pour voir si ça correspond à quelque chose de raisonnable. Et si tout va bien, on peut comprendre un phénomène en le comparant à un modèle, j'allais dire bébête, hein, mais un modèle un peu simpliste.
Vous expliquez d'ailleurs comment un Japonais s'est lancé dans la création de neige artificielle et que c'est un petit détail qui lui manquait. Pour arriver au bout, il a fallu un poil de lapin.
Oui, alors là, justement, c'est intéressant parce que dans tout ce bouquin, on rencontre des gens qui sont très différents, hein. On a rencontré un archevêque qui connaissait à peu près, qui rien du tout à la science. On a rencontré un génie comme Kepler. Bon, moi, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un génie. Puis il y a toutes sortes de gens. Hein. Puis il y a des mathématiciens qui ont créé des modèles. Et on a parlé tout à l'heure de ce photographe qui était un amateur de flocons et qui aimait bien les montrer aux enfants. Beaucoup de gens très différents. Et là, vous faites allusion à un physicien. Et là, c'est vraiment un physicien expérimentateur qui travaillait à Hokkaido, au Japon, dans les années 30. Et ce monsieur, Nakaya, a tenté de voir comment les conditions atmosphériques, la température, l'humidité, etc., influençaient sur la forme du flocon. Alors, il a eu l'idée d'en fabriquer des flocons. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une espèce de caisse, enfin, une espèce de cylindre. Dans ce cylindre, on met un petit peu de vapeur d'eau, et puis on peut régler dans le cylindre la température, on peut régler la pression, on peut régler tout ça. Et puis, il espérait voir des flocons et les examiner en fonction des conditions qu'il avait créées dans sa boîte. Et ce qui lui manquait pour faire pour fabriquer ces flocons artificiels, ce qui lui manquait, c'est le point de départ. Hein, je vous ai dit, dans le nuage, pour que le flocon prenne naissance, il faut une graine initiale, il faut une petite poussière, vraiment toute petite. Et lui, il a tenté des tas de choses jusqu'au moment où il a trouvé qu'un poil de lapin faisait l'affaire. Donc, on voit très bien, je montre quelques photos. Là, là, pour le coup, il s'agit vraiment de physique expérimentale. Dans ce cylindre, il met le petit poil de lapin, il met sa vapeur d'eau, il règle la température, pas ça, et puis il regarde la croissance du flocon. Puis après, il regarde à quoi ressemble le flocon en fonction de la température, l'hygrométrie. Et le résultat de toutes ces études est un diagramme assez magnifique où on dessine en coordonnées, hein, dans les coordonnées horizontales, l'abscisse, il met la température, la coordonnée verticale, l'ordonnée, il met l'hygrométrie, et puis pour chaque point, il regarde le type de flocon qu'on obtient. Et comme ça, en quelque sorte, moi j'aime bien parce qu'à un moment, il a écrit cette belle phrase, il met « les flocons sont comme des lettres » qui nous sont envoyés depuis le nuage et qui nous indiquent quelles étaient les conditions météo, en quelque conditions de température et de pression, au moment de la naissance du flocon. Voilà, donc ce sont des lettres, il y a une phrase plus jolie que j'ai oubliée, très poétique en fait. Voilà.
À travers tous ces portraits de personnages qui se sont intéressés aux flocons, vous montrez bien que la connaissance est finalement une aventure collective qui se construit au fil des siècles, qu'il y a parfois des noms qui sortent du lot et d'autres qui resteront anonymes. Aujourd'hui, il reste des questions, nous ne connaissons pas tout des flocons. Quelles sont, vous, les questions pour lesquelles vous aimeriez connaître la réponse qui vous titille ?
Moi, ce qui me titille, c'est de comprendre cette diversité. Quand on regarde les flocons, on est frappé par le fait qu'il n'y en a pas deux identiques. Ils sont tous différents. C'est absolument impossible, ou presque impossible, d'en trouver deux identiques. Et du coup, cette diversité est assez stupéfiante. Mais il y a des tas de formes qui ne sont pas des flocons. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est cette diversité. On a parlé tout à l'heure du diagramme de Nakaya, qui, en gros, pour simplifier, le diagramme de Nakaya exprime le fait que l'ensemble des flocons dépend de deux paramètres, la température, l'hygrométrie. On peut les représenter sur un espace bidimensionnel. On peut faire une cartographie du monde des flocons. Et ça, c'est une donnée expérimentale que nous devons à ce monsieur Nakaya. Mais la compréhension théorique, pourquoi cette diversité peut être décrite par un tout petit nombre de paramètres, 2, peut-être 3, voilà ce que j'aimerais comprendre et que je ne comprends pas.
Eh bien, un grand merci, Étienne Gis. Nous comprenons donc qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais nous pouvons déjà lire La petite histoire des flocons de neige aux éditions Odile Jacob. À bientôt.
Merci beaucoup.